VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Au Mali, les rébellions à dominante Touareg du nord du pays se réunissent à Kidal, leur fief à plus de 1500 km au nord de Bamako, pour décider d'accepter ou rejeter l'accord de paix et de réconciliation paraphé le 1er mars à Alger par le gouvernement malien et les groupes armés qui le soutiennent. C'est ce qu'annonce l'AFP. Côte d'Ivoire, nombreuses réactions dans le pays et ailleurs dans le monde après la condamnation de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public en rapport avec les violences post-électorales qui ont fait plus de 3000 morts en 2010-2011. Pour Jean-Marie Fardeau, directeur France de Human Rights Watch, justice n'a pas été faite jusqu'à présent. On l'écoute.
La justice n'a pas vraiment été rendue à Abidjan parce que Madame Gbagbo et d'ailleurs les 80 co-accusés ont été jugés pour des crimes contre l'État, pour des troubles à l'ordre public, mais n'ont pas encore été jugés, et en particulier Madame Gbagbo, pour les crimes de sang dont elle est accusée, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, dont elle est accusée au niveau de la Cour pénale internationale. Et nous pensons que les très nombreuses victimes civiles, dont les droits fondamentaux ont été violés, soit parce qu'ils ont certains ont été tués ou violés ou blessés, ces personnes méritent que justice leur soit rendue. Nous attendons que la Côte d'Ivoire ou que la Cour pénale juge Madame Gbagbo pour ces crimes-là. Pour l'instant, le gouvernement ivoirien s'est refusé à transférer Madame Gbagbo à la CPI.
Jean-Marie Fardeau, directeur France de Human Rights Watch. En Guinée, le premier tour de la présidentielle fixé en octobre, ainsi en a décidé la Commission électorale nationale indépendante, qui a précisé hier que le scrutin présidentiel aura lieu le 11 octobre 2015 et les élections communales fin mars 2016. Joint par VOA Afrique, l'ancien premier ministre Sidya Touré, qui souhaite la tenue des élections communales avant les présidentielles, ne cache pas sa déception.
Actuellement, on veut organiser les élections présidentielles avec des maires, des chefs de district, des chefs de quartier qui relèvent uniquement du parti au pouvoir. Nous avions un accord avec le gouvernement, avec la communauté internationale, les accords du 3 juillet 2013, qui prévoyaient l'organisation des élections locales avant l'élection présidentielle. Donc nous n'accepterons pas cette décision d'organiser les élections locales en 2016, alors qu'elles devaient être faites avant les élections présidentielles, pour nous permettre justement d'avoir des élus locaux qui pourraient tous participer au processus de l'élection présidentielle, qui est l'élection majeure en Guinée cette année.
Sidya Touré, joint par Nicolas Pino. RCA, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est en visite dans le pays depuis hier. Pendant 48 heures, les visiteurs vont examiner la situation sur le terrain, 6 mois après le déploiement de la MINUSCA. François Delattre, ambassadeur de France à l'ONU et co-dirigeant de la délégation, présente l'objectif de la mission.
Cette visite du Conseil de sécurité revêt une importance toute particulière. Elle a, je dirais, pour double objet d'évaluer et d'encourager. Évaluer d'abord les importants progrès accomplis dans la sortie de crise et la stabilisation du pays. Évaluer les progrès dans le déploiement et la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA, 6 mois après le transfert d'autorité de la MISCA. Évaluer d'un côté, encourager de l'autre, encourager les évolutions en cours en République centrafricaine, notamment la transition politique avec le prochain forum de Bangui.
Au programme de la délégation aujourd'hui, entre autres des consultations avec les autorités centrafricaines, les forces internationales et les organisations de la société civile. Pour Florence Limbio, ministre centrafricaine de la coopération, cette mission du Conseil de sécurité est un sujet de fierté pour la RCA. Demain, la délégation onusienne prend l'avion à destination d'Addis Abeba.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La guerre contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram maintenant. Au Nigeria, le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a fait acte d'allégeance à l'État islamique dans une vidéo où il s'est nettement mieux exprimé que d'habitude. Les experts y voient l'influence de son nouveau patron, Jean-Roger Bion.
De l'avis des analystes, le groupe État islamique devrait accueillir favorablement le geste de Boko Haram, d'autant que depuis 2014, la secte nigériane ne semble plus se contenter d'admirer ou d'imiter l'État islamique, mais chercherait plutôt à coopérer avec la milice.
Baya ana, nahnu jama'ati al-sunna lid-da'wati wal-jihad.
Lorsqu'il a fait acte d'allégeance à l'État islamique, Chekao a fait en sorte que son message apparaisse en arabe sur la vidéo. Pour l'expert sénégalais Bakary Sam, qui rédige un ouvrage sur Boko Haram, la vidéo est de trop bonne qualité.
Cette fois-ci, Aboubakar Cheikh est revenu avec un discours construit, un discours bien pensé, mobilisant les références religieuses propres à l'école sunnite sur l'imamat ou le califat, en même temps dans un ton très solennel. Moi, je vois deux choses. Un, là, il se repositionne comme étant le véritable leader sérieux d'un mouvement qui dépasse maintenant les frontières du Nigeria et tend vers la construction d'un État islamique autour du bassin du lac Tchad. La deuxième chose, c'est que son allégeance à Aboubakr al-Baghdadi, à qui il donne le titre d'Al-Qurashi, part d'une volonté de légitimation de son pouvoir, légitimation aussi de son statut de calife mondial. Donc l'acte est bien posé.
Bakary Sam, un expert sénégalais qui rédige actuellement un ouvrage sur Boko Haram et son chef Aboubakar Cheikh. Le reste de l'actualité dans le monde maintenant, vive réaction de Cuba suite à l'annonce lundi par l'administration Obama de nouvelles sanctions contre le régime du président vénézuélien Nicolas Maduro. Les précisions de Morgane Guiriec.
Il s'agit du premier différend public entre Washington et la Havane depuis que les deux pays ont annoncé en décembre le lancement de négociations en vue de normaliser leurs relations diplomatiques. Dans un communiqué publié par le journal officiel Granma, Cuba a qualifié la décision du président Barack Obama d'arbitraire et d'excessif. M. Obama a annoncé lundi avoir classé le Venezuela comme une menace pour la sécurité des États-Unis et avoir imposé des sanctions à 7 membres du gouvernement de M. Maduro, accusés de violation des droits humains et de corruption. La Havane a tenu mardi à renouveler son soutien inconditionnel au régime du président Nicolas Maduro et au peuple vénézuélien. De son côté, Maduro a fustigé la décision de M. Obama, qu'il a qualifiée d'injuste et préjudiciable.
Et maintenant, la minute économique avec Nathalie Barge.
Au Burkina Faso, la compagnie marocaine CIMAF a inauguré une usine de broyage d'une capacité de production de 500 000 tonnes de ciment. Le complexe a nécessité un investissement de 30 millions d'euros, indique Jeune Afrique. L'usine est installée à Polesgo, au nord de Ouagadougou, dans la zone industrielle de Kosodo. Ses capacités de production pourront être portées à 1 million de tonnes en fonction de la demande, estime CIMAF. Plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne tentent de se rapprocher de leur objectif d'autosuffisance alimentaire. Alors que 70% des Africains travaillent dans l'agriculture, près du quart de la population du continent demeure sous-alimentée, rappellent les derniers sondages. Pour le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Mansour Kama, un des principaux initiateurs du mouvement de l'autosuffisance en Afrique de l'Ouest, il faut lancer des campagnes de grande envergure pour inciter la population à consommer des produits locaux. Il expose ici le cas du riz.
Les habitudes alimentaires que malheureusement le Sénégal a et qui sont liées à son histoire en laissant le riz venir d'Indochine ou des pays de l'Asie, de Thaïlande, de l'Inde, des États-Unis ou d'ailleurs.
Le président ougandais Yoweri Museveni a appelé l'Organisation de la coopération islamique à accroître ses investissements dans les États membres, surtout dans les domaines des infrastructures, soulignant que cela stimulerait le développement économique en Afrique, indique l'agence de presse africaine. S'exprimant hier lors d'une réunion à Kampala avec le secrétaire général de l'OCI, Iyad Amin Madani, M. Museveni a insisté sur la nécessité de l'unité entre les pays membres, de même que la lutte contre les idéologies extrémistes et sectaires qui déchirent les communautés.
Lutte contre l'État islamique en Syrie, la coalition anti-djihadiste menée par les Américains annonce la conquête d'une zone stratégique près de Tal Hamis dans le nord-est du pays. Avancée qui a permis de couper les routes utilisées par les militants islamistes entre la Syrie et l'Irak, notamment pour envoyer des renforts en territoire irakien. L'État islamique n'aura donc plus la liberté de manœuvrer comme il le souhaite dans cette région. C'est ce qu'annonce l'AFP. Et pour terminer, Conflit en Ukraine, Victoria Nuland, haute fonctionnaire du département d'État américain, accuse la Russie d'imposer le règne de la terreur en Crimée et dans l'Est séparatiste pro-russe de l'Ukraine. Elle a fait cette accusation lors d'une déposition hier au Congrès américain. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Soyez au